Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité est Jérôme Kerbeuf. Il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police des Côtes d'Armor. Et il est venu en direct au micro de la matinale. On va parler, alors pas tellement de politique ce matin, quoique, mais on va parler aussi de maintien de l'ordre et des forces de l'ordre. Faire un petit peu le point dans une actualité, dans une société qui se durcit. Bonjour Jérôme Kerbeuf.
Bonjour.
Alors, je disais faire un petit peu le point dans une société qui se durcit. On a vu ces derniers temps beaucoup d'actualités ici dans les Côtes d'Armor autour de faits divers, souvent liés au trafic de stupéfiants. J'avais envie, pour commencer, de vous demander, est-ce que on rentre dans un nouveau paradigme dans notre département et dans certaines villes comme Lannion ou Saint-Brieuc, où on a le sentiment que le trafic de drogue qui était plutôt réservé aux métropoles arrive sur le terrain des villes moyennes et parfois même des campagnes.
Oui, effectivement, on le voit avec tous les faits qui font l'actualité ces derniers mois. Effectivement, à une période, ce trafic était beaucoup plus mis en lumière dans des métropoles comme Rennes, Nantes. Et aujourd'hui, on le voit, les faits sont là. Nous avons du trafic de stupéfiants un peu plus important, en tous les cas, on le constate, dans les enquêtes et dans les faits, sur des villes moyennes, voire des petites villes, et éventuellement dans certains villages ou certaines campagnes. Oui, effectivement, aujourd'hui, ça se développe sur tout le territoire.
Est-ce que ça amène aussi la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, en règle générale, à, j'allais dire, travailler différemment? Parce que finalement, je ne vais pas dire que vous n'étiez pas habitué, vous êtes formé évidemment, mais à travailler différemment, à enquêter différemment aussi. Sans rentrer évidemment dans des dans des détails.
Oui, sans rentrer dans les détails des enquêtes, les officiers de police judiciaire aujourd'hui ont dû s'adapter à ce développement qui est de plus en plus important. Bon, on a toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'action et aussi dans la réaction. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux faits, aux affaires qui sortent. Et oui, les temps changent, le trafic de stupéfiants s'étend un peu dans toutes les zones. On le voit dernièrement sur les Côtes d'Armor. Et puis, on voit bien les enquêtes, les résultats, les interpellations, tout le travail de fond qui est fait. Et, oui, il y a beaucoup de drogues qui circulent dans notre pays.
Est-ce que pour les enquêteurs et ceux qui sont sur le terrain, on pense aux policiers qui interviennent parfois, qui se trouvent confrontés à ce qu'il n'y avait pas peut-être il y a encore quelques années? Ils risquaient d'avoir des coups de feu, ils risquaient d'avoir des échanges violents parfois. Aujourd'hui, on voit sur les terrains d'enquête et souvent lors des interventions des policiers qui sont confrontés parfois à des armes de guerre. On parle de Kalachnikov et de différentes armes de guerre. Là aussi, ça interroge sur la circulation des armes en France et y compris ici dans notre département.
Totalement. Faut savoir que tout le trafic de stupéfiants, du narcotrafic, génère énormément d'argent. Forcément, les délinquants, ça génère tellement d'argent qu'ils se sont équipés, ils développent de plus en plus. Avant, on était vraiment en bande organisée avec des réseaux très structurés, mais ça s'est développé presque à l'artisanal avec des jeunes, des œuvrés qui ont vu cette manne financière. Et ils veulent prendre leur part du gâteau, ils veulent faire leur petit trafic. Et oui, avec tout ce qu'on voit sur le territoire, ça génère de l'argent. Ils arrivent à acheter des armes, ils veulent grossir, ils veulent, on le voit, les points de deal, de plus en plus. C'est énorme. Moi, j'ai souvenir, j'ai un point de deal dans un autre département. On estimait à 60 000 euros jour. 60 000 euros jour, la manne financière que ça dégageait. Avec des sommes pareilles, forcément, ça prend de l'ampleur et ils en veulent de plus en plus. Pourquoi travailler à côté puisque ils sont très bien rémunérés dans ces réseaux de trafic de stupéfiants?
Alors, sans rentrer dans la chose politique, il y a une interpellation de la part si vous me permettez le terme, des forces de l'ordre vis-à-vis des responsables politiques aujourd'hui pour dire attention, on est sur une pente dangereuse.
Oui, parce que l'ampleur du phénomène. On le voit aujourd'hui, on a des unités spécifiques comme par exemple les FARS, ce sont les forces d'action rapide, Ce sont des CRS qui ont été créés ces dernières années pour être très mobiles et intervenir sur des zones très sensibles. On l'a vu ces derniers jours sur Saint-Brieuc ou Lannion avec la CRS 82 qui viennent en appui sur des opérations coup de poing, de contrôle de grande ampleur. Mais bon, elle reste quelques jours et après elle se déplace sur d'autres sites. Voilà.
Le trafic reprend derrière finalement.
Alors, parfois oui, parfois non. Tout dépend les résultats puisque parfois il suffit d'interpeller les bonnes personnes. Mais vous savez, dans ces réseaux, quand une personne est interpellée et mise à l'écart, il y en a d'autres qui prennent leur place.
Et se pose la question de la violence. On parlait des armes. Aujourd'hui, une personne des forces de l'ordre qui va intervenir sur un terrain, on pense aux forces d'intervention rapide, peut se trouver confrontée à des armes de guerre et peut y laisser la vie. Il faut quand même voir les choses en face. Aujourd'hui, il y a une plus grande violence qu'avant.
Totalement, le risque est toujours très présent, de plus en plus. Alors, nous avons adapté nos équipements aussi par rapport à ce qu'on trouve en face de nous. Pour autant, le risque est très présent. On l'a vu dans différentes situations, que ce soit chez les forces de l'ordre au niveau pénitentiaire, avec les dernières interpellations en Roumanie qu'on a vues dernièrement. Oui, en face de nous, parfois on peut être surpris. On peut tout imaginer, du simple couteau. À l'arme la plus sophistiquée, c'est toujours pareil. Toute cette manne financière, en fait, amène à tous les résultats qu'on voit, c'est-à-dire ils s'adaptent et ils veulent absolument garder, c'est leur façon de vivre.
C'est un business, finalement.
C'est du business. Mm-hmm. Du business sur le narcotrafic, pardon.
Avec aussi une autre arme, ce sont les réseaux aujourd'hui et les messageries cryptées. Il y en a beaucoup question dans l'actualité. Des députés veulent faire en sorte aujourd'hui que l'on puisse avoir accès à ces messageries cryptées. En tout cas, que les forces de l'ordre puissent y avoir accès pour pouvoir mener des enquêtes. Alors, ce n'est pas simple. Là, le débat, il est politique. On va peut-être le laisser un petit peu aux politiques. Mais vous, c'est important aussi de pouvoir entrer dans ces réseaux via ces messageries, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir identifier les personnes. Là encore, sans rentrer dans les détails des enquêtes.
Si on veut obtenir des résultats, on doit s'adapter aux moyens de fonctionnement qu'ils ont. Oui, tout ce qui est le côté numérique et les messageries sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ait les moyens législatifs de pouvoir travailler correctement. Sinon, la porte sera fermée et ils pourront continuer à se développer. Et si on veut obtenir des preuves, aller chercher, confondre les gens, oui, on doit aussi avoir les mêmes moyens que eux disposent pour pouvoir les confondre, bien sûr.
On est passé, en fait, de l'écoute téléphonique, ça fait un peu désuet de le dire comme ça aujourd'hui, à finalement une forme de cyber-enquête, hein, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que, là encore, sans trahir de secrets professionnels, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, parmi les forces de l'ordre, des services qui sont spécialement dédiés pour ces enquêtes, en tout cas pour ces aspects des enquêtes?
Alors oui, nous avons des services totalement dédiés, mais c'est trop peu. On a des cellules particulières sur les cyberattaques, la cybersurveillance, mais c'est toujours pareil, il nous faut des moyens. Et c'est-à-dire que localement, on va avoir une ou deux personnes qui vont avoir des habilitations avec un peu de matériel, mais c'est trop peu aujourd'hui, c'est trop peu. Alors c'est vrai qu'on a des offices qui vont plutôt être centralisés dans les grandes métropoles et qui vont peut-être être saisis lorsqu'on aura décelé sur d'autres zones comme les Côtes d'Armor ou des zones plus petites de police. Ils seront saisis quand on aura effectivement identifié des réseaux plus importants et ils prendront la main. Mais il nous faut toujours pareil, hein, les moyens.
On entend quelques personnalités politiques, c'est assez d'ailleurs transpartisan, dire voilà, aujourd'hui le trafic de drogue, on l'a entendu à Rennes d'ailleurs, ne peut pas être endigué parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs sur le terrain. On manque cruellement d'enquêteurs aujourd'hui.
On n'aura jamais assez d'enquêteurs. La procédure est très chronophage. Il y a plusieurs aspects dans la procédure. On a la procédure d'enquête, de perquisition, de filature, d'identification, du travail de terrain, du travail de fond. Et puis, il y a toute la partie procédurale qui est très, très chronophage. Et de plus, on a des logiciels qui sont obsolètes. Regardez, depuis, on a un logiciel d'enquête, hein, de rédaction, qui n'a pas été mis à jour depuis le mois de juillet l'année dernière, alors que la législation a évolué. Il y a des actes qu'il faut refaire, je dirais, en version papier au lieu de la dématérialiser. Tout ça prend énormément de temps. On est passé au numérique ça marche avec complications. La justice doit aussi se mettre au numérique, donc deux ministères qui travaillent côte à côte, qui doivent aussi s'adapter. C'est pas toujours facile.
Les passerelles ne se font pas facilement.
Alors finalement. Non, mais c'est aussi une question technique, budgétaire, de moyens humains. Et non, il y aura jamais assez d'enquêteurs. Et la charge de travail est énorme. La charge de travail est énorme.
On a entendu Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, beaucoup s'exprimer ces temps derniers justement sur le narcotrafic avec la possibilité de retour de ce qu'on appelait autrefois les QHS, ces fameux quartiers de haute sécurité pour regrouper les narcotrafiquants les plus dangereux, les empêcher de communiquer avec l'extérieur, de faire leur business, là encore. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
Écoutez, j'ai pas d'avis tranché. Par contre, ce que je peux vous dire, que si c'est mis en place, il faut que ça marche. C'est-à-dire, on le voit dans certains reportages, dans les prisons, on vous explique que tel dispositif, mais dans les faits, ça fonctionne pas. On retrouve des téléphones portables, de l'internet, des puces, ils sont livrés avec des drones. Enfin, à un moment donné,
ce sont des tablettes aussi. On a
vu. Alors, effectivement, mais tous ces moyens d'évolution sont détournés avec de la technique parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Et puis, il y a des choses qui arrivent à rentrer dans les prisons, quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, c'est quartier de haute sécurité, mais il faut que ce soit d'une étanchéité qui soit sans faille. Sinon, oui, mais il faut que ça fonctionne. Donc, il faut se garantir et une fois de plus, se donner les moyens. Et il faut que ce soit suivi et vérifié.
Alors, il y a aussi la petite délinquance. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite ou une grande délinquance, ça vous pourrez nous le dire, mais les petits délits, on a souvent des personnes qui sont arrêtées parce qu'elles ont commis un délit sur la voie publique ou autre. Et souvent, on entend les policiers qui se plaignent, qui disent « Bien oui, on les a arrêtés le lundi, le jeudi, on les a recroisés, nos 3 ans. » Voilà. Est-ce que là aussi, il y a un travail important à faire pour la justice, pour adapter finalement les peines, aussi courtes soient-elles, pour éviter justement ce genre de choses, de retrouver ces délinquants qui vont peut-être récidiver dans la rue.
Écoutez, on a un arsenal législatif. On a le code de procédure pénale et le code pénal pour travailler. Ce qu'il faut souvent, c'est dès les premiers faits, je pense qu'il faut être assez sévère pour que la personne comprenne. S'il y a trop de laxisme, alors là, on est sur des politiques judiciaires, ministérielles, c'est un peu compliqué, hein, les orientations appartiennent aux politiques. Mais en tous les cas, oui, on s'aperçoit que si on fait preuve de trop de laxisme, le message, je pense qu'il ne passe pas. Il n'y a plus de peur de la justice, il n'y a plus de peur des forces de l'ordre. Finalement, quand ils pensent qu'il leur arrivera pas grand-chose, Il continue. Combien de fois, quand vous allez aux audiences du palais de justice de Saint-Brieuc, quand ils énumèrent les faits pour lesquels ils ont déjà comparu, qu'ils ont 10, 15 mentions au casier judiciaire, à un moment, nous, on se pose la question quand même. Ah, ça peut continuer longtemps. Donc, peut-être qu'on a un arsenal législatif et qu'il faut appliquer le droit, tout simplement. Et il est prévu certaines peines. Alors oui, c'est toujours une fourchette, hein. La peine qui est prévue est au maximum, et après c'est gradué. Bon, peut-être qu'il faudrait monter le curseur dès les premiers faits. Ça, en tous les cas, on pourrait voir peut-être ce que ça donne, on pourrait le tenter.
Avec, là encore, on va rentrer un peu dans la politique, pardonnez-moi, mais vous parliez de moyens tout à l'heure. Est-ce que finalement la hiérarchie, là encore, hein, je ne vous demande pas de trahir de secret, est-ce que la hiérarchie vous écoute aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est consciente qu'il y a un manque de moyens, que finalement il y a une bataille entre, alors on parlait du narcotrafic, mais ça peut être dans d'autres domaines, entre ceux qui risquent de se faire attraper par la police, qui ont un coup d'avance technologique, et la police qui est un peu à la peine, la police ou la gendarmerie, est un peu à la peine aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait un grand plan, par exemple numérique, cyber, pour la police, pour la gendarmerie, plus largement pour les forces de l'ordre, pour pouvoir avoir ce coup d'avance ?
Alors ce serait une très bonne idée. Malheureusement, je pense que les budgets sont contraints.
Alors oui, on est en période de restrictions budgétaires.
Voilà,
évidemment.
Les budgets sont contraints, il y a des orientations et des priorités. Il y a la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur avec tous ces axes prioritaires. Ce sont des budgets énormes. Je pense que oui, il nous faudrait des budgets bien plus conséquents pour pouvoir tout assumer. Et c'est déjà compliqué parfois d'assumer notre quotidien avec les moyens humains. On manque de personnel, on manque d'enquêteurs. C'est tellement coûteux que, bah, écoutez, tout est priorisé. Mais alors, je pense qu'on n'aura jamais un coup d'avance. Je pense qu'on on s'adapte toujours. On est plutôt dans la réaction que dans l'action.
Je sens un peu fataliste là-dessus.
Parce qu'il suffit de regarder depuis des décennies. On s'est toujours adapté à la criminalité, à la délinquance. Voilà, c'est pas un travail facile. On est en France. La loi, la procédure pénale est très, comment dire, les droits de la défense sont très importants. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on voudrait de la simplification pour pouvoir travailler avec,
moins de contraintes.
Oui, moins de contraintes, moins de contraintes, moins de paperasse, tout en respectant la procédure, évidemment.
On a entendu une proposition de loi possible encore pour garder dans certains dossiers une part de l'enquête, de l'instruction confidentielle, afin que la défense n'ait pas accès aux méthodes employées par les forces de l'ordre pour démanteler tel ou tel réseau ou mettre la main sur tel ou tel délinquant ou grand criminel. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée, même si on sait qu'elle est très controversée, est-ce que c'est une bonne idée pour aussi préserver le travail des enquêteurs ?
Totalement. Où est le problème ? Où est le problème de ne pas faire cela ? On est des gens respectueux de la loi, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer, on ne va pas cacher. Simplement, ce sont des éléments pour confondre les gens, et à partir du moment où on a des coupables en face de nous, avec toutes les conséquences que ça induit, et de toute façon, ça sera très encadré. Il n'y a pas de mensonge derrière tout ça. C'est simplement de la technique procédurale. Enfin, de toute façon, tout est vérifié, tout est suivi par le parquet. Je ne vois pas où est la difficulté. Je vois pas où est la difficulté. Effectivement, ça correspond à des besoins pour atteindre des objectifs, parce que c'est de plus en plus compliqué pour nous. Et oui, mais de toute façon, ça ressortira dans le dossier à la fin. C'est acté. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses. Faut pas un imaginaire, voir quelque chose de flou, une nébuleuse, pas du tout. Non, tout est acté, tout est suivi, tout est encadré. Je vois pas où est la difficulté. Après, ce sont des orientations législatives, effectivement.
Avec aussi la coordination des services, on en entend beaucoup parler avec la douane par exemple, là encore ça nous ramène une fois encore au narcotrafic, mais on pourrait parler de blanchiment d'argent dans bien d'autres domaines par exemple. Est-ce que là aussi les passerelles sont plutôt assez fluides ou est-ce qu'il y a encore de l'amélioration à avoir pour pouvoir là encore conduire des enquêtes sur plusieurs terrains ?
Bon, ça se passe pas trop mal parce qu'on a des groupes spécialisés, on a le GIR35, on a le GIRS 35, qui commence par un J, c'est une autre cellule différente, avec tous les services transversaux, que sont les douanes, le ministère de la Justice, l'URSSAF, enfin, les impôts, enfin, voilà. Donc, il y a quand même des cellules de coopération, pour les grosses affaires. Voilà. Oui, on a quand même des unités spécialisées qui fonctionne plutôt très bien.
Alors il y a aussi aujourd'hui une autre forme de criminalité. La parole se libère dans les questions de violences faites aux femmes ou de pédophilie, on l'entend aujourd'hui. Là encore, ça nous ramène à l'actualité, par exemple avec le procès de Skwarnek. Là aussi, il faut mettre des moyens pour pouvoir aller sur des enquêtes qui sont souvent des enquêtes cyber d'ailleurs. Est-ce que là aussi, vous avez les moyens suffisants pour pouvoir confondre, par exemple, des criminels pédophiles ou autres, là encore, sans dévoiler quoi que ce soit de vos procédures, mais est-ce que vous avez les moyens de le faire ou est-ce que là aussi, il faut améliorer, il faut plus de personnel formé ?
Ça fonctionne pas trop mal, mais on est toujours à la recherche de l'amélioration. On a l'administration met quand même des moyens pour satisfaire en tous les cas les enquêtes et les victimes. Ce sont des domaines très particuliers qui prennent beaucoup de temps. Il faut rassembler les preuves. Toujours pareil, l'arsenal législatif. Et puis, ce sont des enquêtes au long cours. La société évolue aussi. Ce qui était peut-être tabou il y a des années, su, mais toléré, pas dit. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la parole est libérée et que beaucoup de faits qui étaient peut-être cachés, qui étaient des non-dits dans des familles, dans des violences. Puis il y a aussi les valeurs de la société. Il y avait des choses acceptables il y a 20 ans qu'aujourd'hui sont devenues totalement inacceptables. bon, ça fait partie de l'évolution de la société, voilà, des valeurs qu'on peut, qu'on a tous en nous et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont poursuivies aujourd'hui, des nouveaux délits qui sont créés, qui s'adaptent à la société d'aujourd'hui et voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on vit dans une nouvelle époque avec effectivement l'accent qui est mis sur le vivre ensemble.
Et cette réponse ensemble. Nécessaire de la société.
Oui. Mmh. Regardez, on n'a jamais eu autant d'affaires, je dirais, dans le milieu scolaire. Mmh. Mais ça tient aussi aux relations qu'ont les gens entre eux, les réseaux sociaux, enfin, tous ces paramètres nous amènent à avoir beaucoup de difficultés dans le vivre ensemble.
Voilà, et là vous êtes aussi en première ligne lorsqu'il s'agit d'enquêter pour mettre en lumière certains faits.
Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire qu'on a des enquêteurs très consciencieux, très investis, avec une grosse charge de travail. Mais ce n'est pas simple.
Avec la charge humaine aussi.
La charge humaine, parce qu'on touche à l'humain. On touche au ressenti, on touche à, vous voyez, il y a peut-être le curseur de l'acceptabilité n'est sûrement pas le même pour vous et pour moi, dans différents domaines. Donc, quand on va enquêter au sein d'une famille pour certains faits, il y a des choses qui vont leur être reprochées qu'ils ne vont pas forcément appréhender comme nous on l'appréhende, parce qu'ils ne savent pas. Pour eux, c'est non. Regardez, il y a 40 ans, les parents donnaient une fessée à leurs enfants.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Aujourd'hui, donner une fessée à un enfant, c'est de la violence sur mineur, aggravée de la part d'un parent, c'est interdit. Voilà, c'est un exemple très simple. On s'adapte.
Voilà, bon, j'ai eu des fessées, voilà, je peux le dire. Oui. plus sérieusement, là on est aussi dans une autre forme d'enquête, ce sont les enquêtes sur l'évasion fiscale, les malversations financières. Bon, là on est sur de grandes enquêtes. Est-ce que les moyens suivent là aussi à ce niveau-là?
Écoutez, là, on passe dans des cellules beaucoup plus importantes. Je me prononcerai pas parce que c'est pas un domaine que je connais un peu plus particulièrement. J'imagine que, mais de toute façon, bon, il y a des cellules avec des services spécialisés. Après, c'est toujours pareil, on est toujours débordé. On est toujours débordé dans beaucoup de services, donc ça mérite toujours d'être amélioré. Ça, c'est clair.
Alors, sur l'amélioration, vous parliez tout à l'heure de la paperasserie administrative. On parle beaucoup de simplification administrative aujourd'hui. Si le syndicaliste que vous êtes devait avoir, je ne sais pas, Monsieur Darmanin, ou Monsieur Retailleau d'ailleurs, face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez quoi? Il faut supprimer quoi en premier lieu?
En premier lieu, on veut un logiciel de rédaction de procédures simplifié et qui fonctionne bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où les enquêteurs ne peuvent pas, sont devant leur écran et ça ne fonctionne pas. Ils doivent patienter pour créer leurs actes. Sauf qu'on est tenu par la procédure et que ça complique les choses. Il est dommageable d'avoir une personne en garde à vue et de devoir la relâcher parce que l'ordinateur ne fonctionne pas. Elle sera reconvoquée. Mais c'est pas normal. Et donc, on veut des choses simples et qui soient à jour. Moi, je vais vous dire, on a un scandale. Pendant plusieurs années, on a attendu un nouveau logiciel qui s'appelait Scribe. Je vous dirai même pas le nombre de millions d'euros que ça a coûté pour qu'il n'aboutisse jamais. Donc, on repart sur autre chose.
L'argent public, là encore.
L'argent public. Cet argent-là aurait pu être mis ailleurs. C'est un logiciel qu'on nous a prévu vendu pendant des années. On l'attendait. Scribe. Allez, c'est plusieurs millions d'euros qui sont partis par les fenêtres. Il n'a jamais vu le jour, il n'a jamais fonctionné. Voilà.
Sur le terrain, on parlait de la violence aujourd'hui sur le terrain. Du fait aussi qu'il n'y a plus la peur de l'uniforme, la peur du gendarme, la peur du policier. Alors quand je dis la peur, je mets les guillemets qui s'imposent. En tout cas, il n'y a plus la crainte. Aujourd'hui, on voit beaucoup de délits de fuite. On voit beaucoup de personnes qui sont interpellées, qui toisent finalement les forces de l'ordre. Est-ce que c'est facile à vivre d'un point de vue humain pour le policier que vous êtes?
Non, c'est pas facile. On ne l'accepte pas. Mais depuis... Ça arrive maintenant tellement souvent qu'on s'est rentré dans les mœurs, on en a pris l'habitude, on n'est plus étonné, mais...
Vous êtes blasé finalement quelque part?
Parfois oui, parfois on est blasé, puisqu'on retrouve la même personne quelques jours après. Moi, j'ai souvenir à une époque, j'étais en région parisienne, on interpellait. Le temps qu'on tape à la machine à l'époque, la personne, elle passait sous nos fenêtres et elle nous faisait signe avec un sourire parce qu'elle était déjà dehors. Enfin voilà, c'était... on a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, quoi.
Aujourd'hui, on parle beaucoup, alors, plus largement de guerre, de conflits internationaux. On a beaucoup de jeunes qui se tournent vers la réserve citoyenne, qui veulent apporter quelque chose au pays, apporter leur savoir-faire, de jeunes et de moins jeunes, du reste d'ailleurs, je crois que la réserve est ouverte jusqu'à 71 ans ou 12 ans, à vérifier. Est-ce que vous aimeriez que la police ait une part de cette réserve pour travailler aussi, pour vous épauler, pour vous aider dans les tâches peut-être quotidiennes?
Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque Saint-Brieuc, par exemple, est un centre de la formation de la ROPN, la réserve opérationnelle de la police nationale. Nous utilisons des réservistes de cette réserve qui travaillent avec nous, à qui on fait appel ponctuellement quand on n'est pas assez pour travailler puisqu'il nous manque des effectifs. Donc oui, ce sont des gens qui sont formés, notamment sur Saint-Brieuc, centre formateur. Il y a beaucoup de candidats. Donc c'est quand même on le voit, c'est un élan. Il y a quand même une frange de la population qui tient à ces valeurs républicaines, qui veulent s'engager et finalement qui nous soutiennent puisqu'ils souhaitent travailler avec nous. Voilà. Donc oui, nous faisons appel à la réserve opérationnelle de la police nationale.
C'est plutôt quelque chose qui vous soulage finalement de vous dire qu'il y a des personnes qui s'engagent, qui ont envie. Et on l'entend dans la population aujourd'hui. Alors il y a deux franges dans la population, ceux qui ne veulent pas de la police et puis celles qui veulent que la police soit là, garantisse leur sécurité, bon, dans un monde très incertain, dans un pays fracturé, il faut bien le dire aussi.
Oui, après, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que cette réserve opérationnelle, elle doit venir en appui et en soutien. Par contre, elle ne doit pas pallier le manque d'effectifs et ça ne doit pas masquer le problème qu'on a en effectif.
C'est là où je voulais en venir. Ça ne va pas résoudre le problème des effectifs réels, des besoins réels.
Aujourd'hui, non. Bien sûr que non. On les utilise pour parfois remplacer des titulaires manquants. Pour X raisons, et des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Moi, je suis très inquiet pour le département des Côtes d'Armor. On n'a eu aucune arrivée en septembre l'année dernière. Un mouvement d'hiver, on n'a pas été servi non plus. On a du départ. Aujourd'hui, on a des brigades qui s'amenuisent par rapport à ce qui était prévu. Donc, les collègues sont de plus en plus sollicités. Certains repos ne peuvent pas être pris. Ils sont rappelés. Alors oui, on a cette réserve. Mais c'est pas la réserve est un appui et une force qui doit venir nous compléter et pas nous suppléer.
On parlait du travail qui a beaucoup évolué depuis des années avec des problèmes de violence, un travail qui se renouvelle, qui est différent évidemment. Vous parliez aussi on le sent dans vos propos, de l'épuisement des personnels, de burn-out, de ras-le-bol parfois. Il y a des gens qui des fois disent voilà, j'en ai marre, je quitte la police, j'en peux plus, je suis fatigué.
Oui, nous avons des collègues enfin, on peut s'apercevoir que par rapport à il y a quelques années, déjà les cycles de travail ont changé. Les cycles de travail sont très denses. Il y a de l'épuisement. Je pense aussi qu'il y a psychologiquement le constat qu'on peut faire des incompréhensions, comme par exemple avec le ministère de la Justice sur des résultats qui sont pas satisfaisants pour nous parfois. Et en fait, il y a tous ces changements font que oui, il y a un épuisement, une grosse charge de travail, parce que il y a un énorme investissement, parce que beaucoup sont là par vocation, par sacerdoce. On croit tous en ce qu'on fait. On tient, on fait preuve de résilience, mais il y a une fatigue et puis il y a une grosse charge de travail. Et parfois, quand les moyens ne sont pas là, plus on travaille, moins on peut prendre de repos. Donc oui, ça a changé à ce niveau-là. Des blessures. Mais même des blessures physiques, on est plus fragilisé. Donc à un moment donné, quand les moyens humains ne sont pas là, la charge de travail, elle est répartie. La charge de travail est répartie sur ceux qui restent et ça devient de plus en plus compliqué, oui.
On parlait de la police, on parlait des forces de l'ordre ce matin dans la matinale de Bretagne 5 avec Jérôme Kerbeuf, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police des Côtes d'Armor, qui était avec nous en direct. Merci infiniment d'être venu au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci également.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.